Bonsoir les Mojettes et bonsoir les Mojo. MC Bino et Doc Tristan sur les ondes pour votre émission Maudit Blues. Radio Active, Radio Ondine et Radio Boa. Si vous nous rejoignez pour la première fois, c'est donc une émission consacrée à tous les blues, en CD, en vinyle, des nouveautés, des anciennetés, des raretés, des anecdotes, etc., etc. Et si vous nous rejoignez donc pour la première fois, restez branchés parce que peut-être que vous pensez que vous n'aimez pas le blues. Je suis sûr que vous trouverez quelques bonnes choses à vous mettre derrière les oreilles. Allez, comme d'habitude, on commence par la nouveauté. Alors là, c'est un monsieur américain qui s'appelle Jimmy Carpenter. L'album s'appelle Just Got Started. C'est sur le fameux label de blues Gulf Coast Records. Et ce gars-là, Jimmy Carpenter, c'est un saxophoniste. Hein. Il est aussi compositeur et accessoirement chanteur. Il est né en Caroline du Nord, on ne sait pas son âge, hein. J'ai cherché partout, impossible de savoir. Bon, il a une soixantaine d'années, on va dire. Son père était féru de disques de jazz, et aujourd'hui, Jimmy, il est basé à Las Vegas. Il a été plusieurs fois nominé comme meilleur saxophoniste de blues au Music Awards. Hein. Ça fait penser à Sax Gordon, à Joe Sublette, à King Curtis, son maître. Il a commencé par jouer dans des groupes de rock, de rhythm and blues, à la fin des années 70. Ensuite, il s'est fait connaître en jouant pour Jimmy Thackeray et pour Walter Wolfman Washington. Ensuite, il est parti travailler avec Eric Lindell, et puis ensuite Mike Zito, et aussi Tinsley Ellis. Pendant une époque, il s'est aussi installé à la Nouvelle-Orléans et il a joué dans tous les clubs avec tous les musiciens du coin. Et c'est en 2008 qu'il a sorti son tout premier disque comme leader. Là c'est le cinquième. Je répète, Jimmy Carpenter, l'album Just Got Started. Et je vous propose un grand classique du blues dû à un certain monsieur Willie Dixon. Ça s'appelle My Babe.
Eh oui, le choix du doc pour commencer notre maudit blues, c'était Jimmy Carpenter avec le My Babe de Willie Dixon. Alors, c'est la version chaloupée, hein. On a envie de se remettre derrière avec ça, le doc.
Eh ben, c'est fait pour ça.
C'est fait pour ça. Remuer des fesses, les mojo. C'est parti pour une heure du blues et de ses confins. Content de vous retrouver. Et on va commencer directos par mon ABCDR. Et mon ABCDR, aujourd'hui, c'est le début pour quelques albums, parce qu'il a fait quand même beaucoup de choses, ce bonhomme-là. Et voilà, du rhythm and blues et du vrai blues aussi. Hein. Il s'appelle T comme Turner, comme Big Joe Turner, le bonhomme. Alors Big Joe, c'est qu'il y a une raison, évidemment. Hein. Il est né en 1911 à Kansas City, dans le Missouri, et est décédé en 85 en Californie. Il s'appelle Joseph Vernon Turner. Et il découvre, comme beaucoup d'ailleurs de bluesmen, la musique à l'église. Son père décède dans un accident de train alors qu'il n'a que 4 ans, et pour gagner de l'argent, et bien sûr, il part, comme beaucoup de gamins des rues, chanter. Il quitte l'école à 14 ans et il enchaîne des petits boulots, cuistots, scieur de chaussures, barman. Et il commence à chanter. Et justement, il chante dans les bars pendant qu'il sert les clients, histoire de s'amuser et de faire un petit peu le pitre. Il a une puissance vocale hors du commun. Et donc, on commence à être attiré par lui. Il s'associe avec un pianiste à l'époque qui avait sa petite renommée, qui s'appelait Pete Johnson. Ils forment un duo et deviennent rapidement très prisés dans les bars du secteur. Et ils partent à New York en 36. Ils sont repérés par John Hammond. Alors c'est John Hammond, pas le John Hammond, le bluesman que je vous passe régulièrement, mais son père s'appelait John Hammond, et voilà, et qui était un découvreur de talent pour des compagnies de disques. Et il participe, sous l'impulsion justement de John Hammond, d'une revue qui s'appelait From Spirituals to Swing, qui expliquait en fait on va dire le démarrage de la musique, les racines de la musique, et qui était une revue un live show qui avait lieu à New York et qui avait remporté un succès colossal à l'époque. Ils écrivent des morceaux qui commencent à avoir leur petite réputation, hein, comme Roland Pete, hein, ou comme le suivant, c'était My Girl is a Jockey. Ils ont signé chez Vocalion, chez Decca. Mais vraiment, la consécration, c'est de signer chez la plus grosse compagnie de l'époque, hein, c'est Atlantic, en 1951. Et ils écrivent un titre qui restera dans le rhythm and blues et le blues comme un standard, qui s'appelle Flip, Flop, Fly. C'est le morceau que je vais vous passer. Et ce morceau-là, je l'ai sur un album, un import américain, donc pochette, vinyle, marron à l'intérieur, très épaisse, qui est sur un label que je connais pas, LMI, Lee Majid Incorporated, ça s'appelle, qui est un label californien. Et magnifique pochette où on voit Big Joe Turner dessiné en noir et blanc, comme au fusain, sur une pochette fond blanc. Et magnifique dessin. Donc, album sorti en 73, et ce qui s'appelle Boss Man of the Blues. C'est donc Big Joe Turner avec Flip, Flop and Fly.
1, 2, 3, 4. Head back in my leg. When I was bound for a heart attack. Drank hearty. Stay with your party. Now I get the blues to get me a rocking chair. Get the blues, baby, get me a rocking chair. Blue door, baby, gonna rock right away. Yeah. I get along. day, now's the day. That's all right, don't quit now. How did the other chick get so long?
Big Joe Turner, extrait de l'album Bossman of the Blues, le titre célèbre Flip Flop and Fly. On notera entre autres quand même le rôle du saxophoniste Jimmy Night Train Forest et l'harmoniciste, le célèbre Rod Piazza, dont on vous a parlé encore, je crois qu'il n'y a pas très longtemps. Bien, et ben moi aussi, mon ABCDR, et là j'ai changé de crèmerie. Ce n'est plus Taj Mahal, c'est Monsieur Tom Parade. Tom Parade, en fait, évidemment, il ne s'appelle pas Tom Parade. Hein. ce gars-là...
Pourquoi Tom pas et pourquoi Red ?
Eh bien, je vais vous le dire, évidemment, mon cher ami. Il s'appelait Hudson Whittaker. Ou, on ne sait pas, peut-être pas Whittaker, peut-être Woodbridge. Il serait né en Géorgie, mais on ne sait pas. En quelle année ? En 1900, 1903, et certains disent en 1908. Ses parents vont décéder alors qu'il est tout jeune et il va être confié avec son frère à sa grand-mère qui vit en Floride dans les faubourgs d'une ville qui s'appelle Tampa.
Ça alors.
Et vous avez donc déjà une première explication. Il va apprendre la guitare grâce à un voisin, voilà. Et c'est lui, le voisin, qui lui apprend la guitare, qui va le surnommer Red, ce qui veut dire rouge, en raison de son teint cuivré. En fait, probablement qu'il avait du sang amérindien. Probablement, hein. Donc, ce chanteur et guitariste, Tom Parade, spécialiste de la slide guitare, hein, un des premiers, va être très marqué par ce qu'on appelait les vaudevilles. Il va faire la route à vélo pour aller jusqu'à Chicago, où il va arriver en 1922. Il va jouer avec Ma Rainey, il va jouer avec Tom Dorsey, avec Big Maceo. Il va inviter pour ses prestations des saxophonistes et des harmonicistes, notamment Sonny Boy Williamson ou Walter Shaquet Horton. Voilà. Et il va aussi beaucoup s'inspirer du son et des jeux hawaïens. C'est surtout avec les effets de la slide, ça favorise ça. Et il va même être surnommé, à cause de ça, le sorcier de la guitare. Voilà, bon, je vous en raconterai d'autres la semaine prochaine. Donc là, je vous propose un extrait d'un double album qui est une compilation de ses prestations pour le label RCA Victor et Bluebird. Sachez aussi quand même que ce monsieur-là, beaucoup de ses chansons ont été reprises par B.B. King, Elmore James et tous les autres. Bref, un titre « So Crazy About You, Baby », c'est Tom Parade.
Your heart be true. I can't be happy no matter how I try. You left me, baby, didn't even. one say goodbye. And I'm so blue without you, baby. You know I didn't mean no harm. Someday, baby, that you will learn to love me too.
Eh oui, je suis complètement fou de toi. So crazy about you, baby. Donc, Tempered, avec sur un label Ace Records, réédition Ace Records, superbe label qui est allemand, je crois. Pop, Ace, non, anglais,
américain.
Ouais, américain peut-être, oui, Ace.
Je suis pas sûr.
Mais bon, distribué par, je crois, avec comme Beer Family en Europe, par l'Allemagne. Enfin bref, en tout cas, c'est un... Voilà, c'était Tempered, et avec un côté quand même très vintage. Hein. Alors là, oui. Moi, je vous propose encore plus vintage que vintage.
Parce que, attends, je
l'ai oui,
pas
oui, le doc,
je l'ai pas tu fait, voulais dire oublié, quoi. Bah oui, que ça date de 53.
Et oui, c'est quand même pas tout neuf, cette affaire. Hein. Alors, vous savez qu'après la BCDR, je vous passe, je vous trouve une petite diablesse. Hein. Souvent, c'est des vieilles diablesses, hein. c'est pas des jeunes diablesses. C'est des diablesses, des fois même, qui sont nées le siècle dernier, voire même celui d'avant. Eh oui, le doc.
C'est arrivé, oui.
Puisque celle-là, elle s'appelle Clara Smith, cette diablesse. Elle est née en 1894,
wow,
dans un bled archi connu qui s'appelle Spartanburg. Donc, inconnu, ouais, évidemment.
C'est à côté de Strasbourg.
Bon, par contre, près de Strasbourg, c'est possible. Elle est décédée en 1935 à Détroit, donc là aussi, ça fait quand même un petit bail. Alors, c'est une diablesse qui a commencé sa carrière artistique, hein, et comme beaucoup, par les chants, et en particulier, elle a fait les vaudevilles itinérants. Dès le début des années 10, c'est-à-dire, elle avait, on va dire, une petite vingtaine d'années. Et elle a tourné pendant 15 ans, comme ça, dans tous les États du Sud, hein, des États-Unis. Et en 23, elle était, avec son expérience, elle part à New York, elle dit, tiens, je vais aller monter là-bas, et elle va habiter dans Harlem. Et pendant 10 ans, elle gravera quand même une centaine de titres pour Columbia, ce qui n'était pas rien à l'époque, parce que c'était un sacré gros label. Et donc, elle a fait des titres accompagnés de Louis Armstrong et de James Johnson. Donc, Louis Armstrong, c'était quand même une star à l'époque, hein. Elle a aussi fait des duos avec Bessie Smith et Lonnie Johnson. Elle s'installe en 33, elle part à Détroit, et hélas, elle décédera 2 ans plus tard d'une maladie cardiaque. Et oui, voilà. Tout se termine comme ça, les Mojo. Hein. Bon, alors, restons optimistes. Malgré tout, vous allez voir, si vous voulez pleurer, c'est le moment ou jamais. Voilà, je vous le dis carrément, parce que là, ça, c'est un titre... j'ai pas compris toutes les paroles, mais alors vraiment, on sent que, voilà, si vous voulez pleurer ou danser, un petit slow, c'est le moment ou jamais. C'est donc Clara Smith, c'est un titre enregistré en 1926, donc on est vraiment dans l'historique, si on peut dire ça, un son voilà, de l'époque un peu crin-crin, mais voilà, c'est, ça mérite d'exister. Et ce titre de Clara Smith s'appelle « Whip It to a Jelly ».
Il faut bien battre, hein, si vous voulez obtenir une belle gelée, hein, pour faire votre roulée. Alors, c'était la célébrissime Clara Smith. Bien, eh ben, moi, c'est aussi ma diablesse, et j'en suis toujours avec Madame Etta James. Donc, si vous voulez connaître un petit peu les hauts et les bas de sa vie, ben, faut écouter les émissions précédentes. Alors là, je vais vous passer un extrait d'un disque, un de ses meilleurs disques aussi. J'ai déjà dit ça pour la semaine dernière. Ça date de 2004. C'était chez BMG. Et l'album s'appelait Blues to the Bone, le blues à l'os. Et elle reprend alors plein de super titres. Et là, je vous propose une reprise d'un succès repris par beaucoup de monde. Ça s'appelle You Shook Me. D'ailleurs, on vous en a passé plusieurs versions, évidemment, dans Maudit Blues. C'est une chanson qui est due à Willie Dixon et probablement pour les paroles à J.P. Lenoir. Ils n'ont pas travaillé tout le temps ensemble, ces deux-là, pourtant. Voilà, ça s'appelle You Shook Me, et c'est la grandissime Madame Etta James.
Yeah, you done messed up my happy home. You know you move me, baby, just like a hurricane.
La grande Etta James avec un album Blues to the Bone et You Shook Me. Alors c'est vraiment la classe, hein. C'est super bien entouré au niveau du groupe.
Ouais. Et pourtant, c'est
superbe voix.
Ils sont pas connus, hein. J'ai pas cité les musiciens, mais c'est pas des très connus. Juste quand même, ce morceau-là, il a été rendu célèbre, entre autres par Jeff Beck et par Led Zepp.
Mais c'est vrai, c'est elle qui l'a écrit à l'époque, bien sûr.
Non. Willie Dixon et Jimmy Lenoir.
Bien sûr. Mais oui, c'est vrai, ouais. Alors, pas dans les mêmes versions, hein, les Led Zepp, évidemment. Et c'est ça qui est bien, c'est quand on s'approprie un morceau, ben voilà, on en fait un petit peu ce qu'on veut, avec plus ou moins de réussite. En tout cas, ça réussit à Led Zepp, hein, ce truc-là. Bon, les Mojo, vous êtes sur Maudit, sur Radioactive, sur 1.9
Radio Ondine
ce soir et Radio Boa.
Voilà.
Et on dîne et on boit ce soir. Ça marche.
Ah ouais, ça marche.
On dîne et on boit ce soir.
Ouais.
Mais ici, on va leur passer le message à ces gars-là.
Mais ici, il n'y a pas de langue de bois. Hein.
Non, il n'y a pas de langue de bois. Il n'y a que du contact et de l'activité radioactive. Bon, dans mes petits achats récents, mais qui ne sont pas vraiment récents au niveau, par contre, de la sortie d'album, hein, j'ai un superbe vinyle qui s'appelle un gatefold, c'est-à-dire qui s'ouvre en deux, vous savez, un port américain, d'un bonhomme qui s'appelle Charles Brown. Son album Drifting Blues, superbe import américain, pochette épaisse. Voilà, on sent qu'il a un petit peu de vécu l'album. C'est un bonhomme, Charles Brown, qui est né en 1922 à Texas City, donc hein, Texas, et décédé en 99. Quand il est tout bébé, sa maman décède, c'est ses grands-parents qui l'élèvent, sa grand-mère lui apprend le piano. Et donc, il découvre cet instrument-là, et puis il va le faire sien toute sa vie. Dès 14 ans, il fait l'animation musicale dans les nightclubs de Galveston, où il habitait à l'époque. Et en même temps, il poursuit des études et il a un diplôme de chimie et il part à Los Angeles en 1943. Donc, c'est un mec qui est assez brillant, en fait. Il intègre un groupe qui s'appelle les Three Brothers en tant que chanteur et pianiste. Et comme il fait principalement tout dans ce groupe-là, principal compositeur en tout cas, et c'est un peu le cerveau de ce groupe-là. Comme il est mal payé, ben voilà, il décide de se barrer et quitte le trio en 1948. Il part et grave en vedette pour un gros label qui s'appelait Aladdin à l'époque, et il devient un interprète préféré du public noir dans les années 50. Il va influencer des pointures après, quand même, comme Floyd Dixon, comme Ray Charles, comme Amos Milburn. Dans les années 50, comme pour beaucoup de bluesmen qui sont des bluesmen, vous allez voir, lui, il est dans la tranche, on va dire, bluesman à façon Ray Charles, c'est-à-dire chanteur, très bon chanteur, pianiste, très bon pianiste, mais en même temps, il fait des choses qui sont un peu, je vais être plutôt des morceaux très à la cool, limite blues jazz, on est entre les deux. Et ce qui fait qu'en fait, il n'est pas du tout dans les années 50, 60, dans le créneau rock'n'roll, et donc il va partir dans l'oubli, ce bonhomme, Charles Brown. Alors, moi, je vous ai choisi un morceau. On est sur la face 1, le doc, là-dessus ?
Phase 2.
On est sur la phase 2. Bah, donc, c'est un album sorti dans les années 61 et qui s'appelle Since I'll Fail For You.
Home. You took my love and now you're gone. Since I fell for you, love, love, love brings such misery and pain. I guess I'll never be the same. Baby, since I fell for you, it's too bad, it's too sad that I'm in love with you. Me, then you stop me. What can I do? I'm still in love with you. I guess I'll never see the light. I get the blues every night. Oh, every night since I fell for you. Thank you. bad. It's too sad that I'm in love with you. When you love me, then you snub me. What can I do? Well, I'm still in love with you. I guess I'll never see the light. I get the blues about every night since I fell for you. Oh yes, I fell for you.
Tu recommences.
Je recommence, Charles Brown, l'album Drifting Blues, le titre Since I Fell For You. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il était à l'orgue, hein, évidemment, et pas au piano. Alors,
et au chant, bien sûr.
Et au chant, évidemment. Alors, encore une nouveauté pour moi aujourd'hui. Et on la doit. On la doit à un chanteur avec une belle voix. Alors, très claire, pas aussi profonde que celle qu'on vient d'écouter. Qui est aussi un excellentissime guitariste, finger picking entre autres, et il a aujourd'hui 73 ans. Et ce qui explique qu'il a pu un cheveu sur le caillou. Et j'ai été surpris de voir. Parce
que, t'as pas donné son nom encore.
Non, j'ai pas donné son nom, je sais, mais c'est pour que les gens cherchent. Donc il a 73 ans, il a plus un cheveu sur le caillou, et d'habitude ça se voit pas trop puisqu'il a tout le temps un beau chapeau sur la tête. Mais là je l'ai vu sans son chapeau. Son père était chanteur folk au Canada. Et son oncle était pianiste de jazz. Il a commencé la guitare à 7 ans. Il y a un voisin qui s'appelle Bob Dylan. Quand il a 11 ans, il va discuter le coup avec lui. Et puis, il va se mettre à jouer sur diverses scènes à partir de ses 15 ans. Et à 19 ans, il plaque tout et il vient s'installer à Paris. Il pense que ça va marcher. Mais ça ne marche pas. Et donc, il part pour la Suède. Et puis ensuite, il retourne aux USA. Et puis ensuite, il s'installe à Londres. Je crois que c'est encore là qu'il est actuellement. Son premier disque était sorti en 72, mais en fait le premier succès va venir au deuxième disque. C'était seulement en 94, donc quand même il a fallu qu'il patiente un petit temps, hein, 12 ans. 12 ans, qu'est-ce que je dis, 22 ans,
30 ans, 7, 8, 9, 22 ans, 22
ans, voilà. En fait, il en est aujourd'hui à plus de 35 albums. Il en fait un tous les ans, lui. Hein. Alors, je vous en passe à chaque fois, d'ailleurs.
T'as pas dit le nom, toujours ?
Non, j'ai pas dit le nom. Il s'appelle... Allez, c'est bon, je vais le dire. Eric Bibb.
Ah, enfin !
B-I-2-B. Eric Bibb. L'album In the Real World. Et c'est sur le fameux label Repute Records. C'est pas vrai, c'est pas célèbre. C'est quand même adoubé par Stony Plain Records. Hein. C'est donc un label canadien. Bien, eh ben, je vous propose... Ce sont uniquement 15 titres de son cru, où il est tout seul, où il est avec quelques musiciens. Ça va être le cas, là, il y a quelques musiciens. Et le titre que j'ai retenu, c'est le 7e. Ça s'appelle Stealing Home. Eric Bibb.
September 1955, tension in the dugout, buzzing like a beehive. Yankee Stadium went wild when Jackie won the race. I nearly lost my mind when the ump called him safe. He was fearless like Daniel. Daniel in the lion's den, taking on an evil system with the courage of 10 men. Mm-hmm. hateful look, keeping his cool while his inside shook. Saved by a whole nation, all eyes on the game. Not losing his concentration when he was called that ugly name. I felt joy, in every bone, watching Jackie stealing in the land of the free. There's one etched in my soul, a part of me. I felt joy like a boy at Christmas in every bone, watching Jackie stealing home, watching Jackie stealing home. Count the times he caught a hateful look, keeping his cool while his inside shook. Seen by a whole nation, all eyes on the game, keeping his concentration when he was called that ugly name. I felt joy, pure joy in every bone. Joy. Joy. I felt joy in my heart. Yeah, in every bone. Watching Jackie Robinson stealing home. In every bone, watching Jackie stealing home.
Et oui, Stealing Home, c'est Eric Bibb, très belle jaquette de CD, où Eric, il est avec...
toutes ses guitares.
Assis dans un canapé, en train de jouer de la guitare acoustique et entouré de dizaines de guitares dans la pièce, où je pense qu'il doit les collectionner, ou entouré dans un studio, je pense que c'est à lui, hein, et voilà. Et il a un chapeau, c'est un nom particulier,
le
chapeau
Stetson.
Ah non, c'est pas un Stetson, ça. Non. Ah. C'est un chapeau, tu sais, qui est. C'est le nom d'un gâteau américain, là, du Texas, parce que c'est en forme seulement de.
De paille.
Non, bref. Chapeau enfin, en paille. Tout cas, voilà. Non, pas chapeau de paille, c'est pas du paille. Alors, je vous ai dégoté, là, dans mes emplettes récentes, un autre groupe. Alors. Franchement, pas connu. Hein. C'est un truc qui s'appelle Deluxe Blues Band. Hein. The Deluxe Blues Band. Avec dedans des gens comme, pas connu non plus, Danny Adler, Bob Hall, Mickey Weller. Voilà. Alors, l'intérêt de cet album, enfin, l'intérêt, la particularité de cet album-là, c'est que ça a été leur premier album, ils ont sorti en live, tout simplement. Alors, on est dans du blues assez couillu. Rhythm and blues, rock and roll, mais blues d'abord, et c'est bien secoué. C'est voilà, on sent que les gars, ils ont des bouteilles, de la bouteille avant. Ils ont joué dans des dizaines de groupes chacun, et puis voilà, ils sont formés pour aller faire ce groupe-là, Deluxe Blues Band. C'est sorti en 1981 chez quand même Virgin Records. C'est un import anglais. Voilà, Deluxe Blues Band. Et le morceau choisi s'appelle The Swivel Tongue Baby.
Come on, people! Wait a
charm, chatterbox. Drop one line and you'll drop, you make a rabbit of the fox. Sliver tongue, baby, I never know just where you at. You say I'm sweet enough to eat, but maybe you're just doing the best. Picking up your tail.
Deluxe Blues Band avec le titre Swivel to Tongue Baby. Allez,
faire, à tes souhaits.
Yeah, faire tournicoter sa langue et gazouiller. Voilà, bref, allez, encore une nouveauté en fait. C'est une drôle de nouveauté parce qu'en fait, c'est pas une vraie nouveauté. Mais ça vient de sortir. C'est parce que monsieur Bob Corritore, dont je vous parle régulièrement, excellentissime chanteur et harmoniciste, et qui a plein de copains depuis son enfance et son adolescence, et qui a fait des photos avec tout le monde et des concerts avec tout le monde. Il a enregistré plein de choses qu'il garde dans ses...
archives.
Voilà, je cherchais le mot, merci, en anglais, the vaults. Et donc, et ben, il ressort de temps en temps des archives. Et là, c'est une archive où il est avec un certain Dave Riley, qui est chanteur, bassiste, guitariste, qui venait du Mississippi, mais qui a grandi à Chicago, et qui a joué quand même avec Muddy Waters, Junior Wells, Buddy Guy et Howlin' Wolf. Hein, voilà. Il va faire de la prison aussi pendant 9 mois quand même. Hein, Bon, voilà, c'est donc un magnifique album. Donc, il a ressorti de ses tiroirs qui ont été enregistrés, je sais pas quand, en 2005, 2006. Voilà. Ça s'appelle Dave Riley and Bob Corritore Traveling the Dirt Road. C'est sur le label V-Stone. Et je vous propose le titre numéro 5, Let's Have Some Fun Tonight. Voilà, voilà, Dave Riley et son copain Bob Corritor qui étaient en partance pour faire un peu la fête ce soir. Eh ben, bonne fin de journée à vous, les Mojettes et les Mojos, Radioactive, Radio Ondine et Radio Boa. On se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bye bye.
Oui, les Mojos, il y a une fin à tout, même au meilleur. Donc, on vous embrasse, on vous souhaite une bonne semaine de blues. Hein, et d'ailleurs, il faut toujours que vous ayez le blues, mais vous savez bien aussi, pas trop quand même. Hein, on vous embrasse, ciao. Prenez soin de vous.